message pour nous ce matin. Prions ensemble. Mon Père Céleste, merci parce que tu te révèles à nous par ta parole. Nous te prions que, tandis que nous méditons ta parole vivante ce matin, tu nous ouvres les yeux davantage quant à qui est ton Fils et ce qu'il est venu faire. Et on te prie que tu nous donnes des cœurs réceptifs à ta parole chacun entre nous, des esprits attentifs, et ceci dès la lecture. Au nom de Jésus. Amen. C'est en Jean 14, versets 1 à 7.
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. »
Qu'on en soit conscient ou non, que l'on se dise religieux ou non. Dans la vie, on suit tous une voie, un chemin. Tout le monde choisit un chemin de vie. On suit tous un chemin qui donne sens à notre existence. Et sachant ça, il y a deux questions qui se posent à nous. Premièrement, quel chemin de vie suivons-nous ? Et deuxièmement, avons-nous choisi le bon chemin ? D'abord, quel chemin suivons-nous ? Peut-être que vous n'avez jamais trop réfléchi à la question. Vous ne sauriez peut-être pas trop dire. Et peut-être que votre choix s'est fait un peu par défaut, vous diriez. Vous avez vu beaucoup de personnes courir dans une direction, prendre une voie, courir dans une direction, et vous êtes dit que ça doit forcément être la bonne voie, le bon chemin de vie à suivre, à prendre. Mais quel est ce chemin que nous suivons, que vous suivez au juste ? Pour le savoir, je pense qu'il suffit de regarder à ceux qui nous motivent dans la vie, ce après quoi on court. Oui, parce que pour courir vers quelque chose, il y a forcément un chemin qu'on emprunte, n'est-ce pas ? Alors pour beaucoup, ce chemin de vie n'implique pas forcément de spiritualité, de foi, de religion. Par exemple, certains poursuivent le bonheur ultime, le but dans leur vie, le chemin de vie. Ben, c'est un peu la voie professionnelle. Ils travaillent dur pour être peut-être reconnus, valorisés par les autres, et ceci de par leurs accomplissements. Et c'est comme ça que les symptômes qu'on peut voir, c'est d'être accro au travail. Ben, c'est un chemin qui donne sens à l'existence, à la vie. Pour d'autres, le chemin de vie est plutôt familial. C'est la quête du bonheur ultime, du bonheur d'une certaine manière existentielle, que nous procure peut-être un conjoint ou des enfants, ou la valeur, l'estime que la famille nous donne. Pour d'autres, c'est le confort. Ce sont les divertissements, le confort. Et d'une certaine manière, on recherche le confort à chaque étape de vie par lesquelles on passe. Et les investissements financiers, le travail, sont des moyens de maintenir ce confort que l'on recherche, que l'on poursuit, c'est ce chemin de vie. Pour d'autres, ce chemin de vie implique la spiritualité, une foi, une croyance. Par exemple, c'est par le respect de règles, de rites, et aussi en cherchant à être une bonne personne, qu'on essaie d'obtenir la faveur de Dieu. C'est ça le but, obtenir la faveur de Dieu, et puis on pense qu'il faut poser des actes spirituels, religieux, et puis chercher à être moralement bon devant Dieu. Ou peut-être que c'est par d'autres moyens, où il n'y a pas forcément Dieu dans le paysage, où il y a de la spiritualité, on médite, on essaie de se détacher de la souffrance et du mal pour arriver à un état de bien-être suprême, meilleur. Pour d'autres, ça implique la foi en Jésus, le suivre chaque jour par la confiance. Et vous, quel est votre propre chemin de vie? Et deuxième question cruciale, face à tous ces chemins de vie qu'on vient de mentionner, et il y en a bien d'autres encore, avez-vous l'assurance d'avoir choisi le bon chemin de vie? Ou bien, est-ce que vous diriez que vous n'êtes pas trop sûr au final? Vous avez emprunté une voie, mais vous n'êtes pas 100% sûr que c'est forcément le bon. Peut-être que vous auriez tendance à dire qu'au final, tous les chemins sont bons et ils mènent au bien-être suprême. L'important, ce n'est pas tant le chemin emprunté, mais le bonheur qu'il nous procure. Vous diriez peut-être cela. Et dans ce sens-là, tous les chemins se valent, vous diriez peut-être. Et c'est ainsi que beaucoup disent que Jésus n'est qu'un chemin parmi d'autres. Et que c'est très bien pour ceux qui veulent le suivre, si ça leur fait du bien. Bien, avant d'aller plus loin et de regarder en détail ce que Jésus nous dit dans les versets 1 à 7, réfléchissons un petit peu à cette idée qui est fort répandue. Cette idée, un peu, on peut voir l'image d'une montagne et tous les systèmes de croyances, y compris l'athéisme, qui est la foi dans le fait qu'il n'y ait pas de Dieu, et d'autres systèmes de croyances aussi, comme le christianisme et d'autres encore. Mais cette image que toutes ces fois, toutes ces croyances sont comme des chemins différents qui mènent au même sommet. Et c'est ce que, techniquement, c'est le pluralisme religieux, le fait qu'il y a un pluriel, une pluralité de religions. Tous les chemins sont bons selon cette pensée. Alors, selon cette pensée, le christianisme, du coup, Jésus lui-même, est juste un des nombreux chemins qui mènent au sommet, qui mènent à Dieu. Mais, si vous regardez avec moi le verset 6, Jésus dit ceci, n'est-ce pas ? C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus affirme qu'il est le seul chemin vers Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais le pluralisme religieux dit que Jésus, la foi chrétienne, est un chemin. En fait, le pluralisme religieux, du coup, se tire une balle dans le pied, est illogique. Parce que Jésus exclut tous les autres chemins. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si le pluralisme religieux entend Jésus dire cela et dit « Mais non, Jésus, il y a plus que toi qui mène à Dieu, au sommet de la montagne. » Ben en fait, encore une fois, le pluralisme religieux se tire une balle dans le pied. Parce qu'il ne dit pas que tous les chemins mènent à Dieu, y compris Jésus. Il dit que non, Jésus a tort. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire? Le pluralisme religieux, cette pensée, ne tient pas la route. Elle est illogique. Ça ne respecte pas le principe de non-contradiction, le fait qu'on ne peut pas affirmer quelque chose et dire le contraire en même temps. Non. Par exemple, si nous prenons l'athéisme d'un côté et d'un autre côté l'islam et le christianisme. L'athéisme dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et l'islam et le christianisme disent qu'il y a un Dieu. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Les deux ne peuvent pas mener à Dieu. Forcément, l'un a raison et l'autre a tort. Un est juste, un est correct et l'autre incorrect. Maintenant, si on prend l'islam d'un côté et le christianisme de l'autre, le christianisme dit que Jésus est Dieu incarné et que c'est par la croix seule, comme on l'a bien vu ce matin, qu'on peut être réconcilié avec Dieu, le Père. L'islam dit que Jésus n'est pas Dieu et que ce n'est pas par la croix qu'on peut seul et la foi en Jésus seul qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Non, forcément, l'un a raison et l'autre a tort. Les deux ne sont pas vrais en même temps. Le pluralisme religieux ne tient pas la route. Alors, il se peut que jusqu'à présent, on ait pensé que le pluralisme religieux était vrai, ceci sans trop y avoir réfléchi, peut-être. Surtout parce que c'est une pensée qui est fort, fort répandue, très répandue dans notre société, et que nier cela, aller à l'encontre du pluralisme religieux, ce serait très politiquement incorrect. Ce serait coûteux pour notre réputation, dans beaucoup de cas. On pourrait avoir peur que si on affirmait le contraire de cette pensée, on soit perçu comme quelqu'un de très intolérant, peut-être pas avec nos collègues, dans notre bâtiment où nous habitons, dans notre voisinage. Mais en réponse à ça, on doit dire que penser ou même affirmer que l'autre, qu'on pense que l'autre a tort dans ce qu'il dit ou ce qu'il pense ou ce qu'il croit, ce n'est pas être intolérant ou manquer de respect forcément, ou manquer d'amour, ou de ne pas reconnaître la dignité humaine de l'autre. Non. Soit dit en passant, Jésus faisait bel et bien preuve de respect et d'amour envers tous, même si ceux qui le rejetaient, qui n'acceptaient pas qui il était et ce qu'il était venu faire pour eux. Il a pleuré pour les pécheurs qui le crucifiaient et qui se moquaient de lui. Sachant cela, que tous les chemins ne sont pas bons dans le sens que juste, correct. La question demeure, avons-nous choisi le bon chemin à suivre? Et d'ailleurs, pouvons-nous même savoir s'il y en a même un de bon chemin au final? C'est une question qui se vaut, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y en a aucun, ou si on ne peut pas vraiment savoir, alors on a toute la liberté de se tracer son propre chemin, de se le choisir soi-même, sans craindre d'avoir tort ou de risquer de manquer quelque chose d'important. Par contre, s'il y en a un de bon chemin, il nous faut le connaître, car les enjeux sont grands. Mais quelqu'un demandera peut-être, mais Alex, comment savoir quel est le bon chemin s'il y en a un de bon chemin? Eh bien, voyons voir dans notre texte. Premièrement, on peut le savoir parce que Jésus connaît le chemin vers Dieu. Premièrement, il y a deux points pour ce matin. Premièrement, on peut le savoir parce que Jésus connaît le chemin vers Dieu. Question pour ceux qui ne me connaissent pas tellement bien. Alors, on était ici il y a une dizaine d'années, on faisait partie de cette assemblée, mais peut-être que vous ne connaissez pas ça à mon sujet. Et c'est un jeu, préparez-vous à lever la main, c'est un quiz. Il n'y a rien qui est en jeu, les amis, il n'y a pas votre téléphone qui est sur le tapis, non, il n'y a rien qui est en jeu. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr de connaître le bon chemin pour arriver chez ma mère, là où ma mère habite? Quel chemin emprunter? Quelle est l'autoroute qu'il faut emprunter? Faites la main levée. Est-ce que c'est... Il faut prendre le 40 à partir de Bruxelles. Le 40, pour ceux qui n'ont pas de voiture, c'est celle qui part de La Panne, qui passe par Bruxelles et qui va vers Liège. Est-ce qu'il faut prendre le 40 pour aller chez ma mère? Levez la main, n'ayez pas peur, il n'y a rien qui est en jeu. Levez la main. Il y en a 3, 4... Vous entendez pas un accent liégeois, vous dites, c'est pas forcément ça. Explique un peu en français. Ok. Deuxièmement, est-ce que c'est le 429? Le 429 qui part de Bruxelles et qui passe par pas loin de Hatte, qui va vers Tournai, un peu vers la France là-bas. Qui pense que c'est le 429? Il y a un peu plus. Non, c'est kiff-kiff là. Il y a que 3 options, je vous dis déjà, je vois qu'il y a très peu de personnes. Et ensuite, qui dit que, qu'il faut prendre la E411, qui part de Bruxelles, qui passe par Louvain-la-Neuve, Arlon, et qui va jusqu'au Luxembourg. Qui pense que c'est l'E411? J'espère qu'il y a beaucoup de mains qui vont se lever, parce qu'il y a peu de mains qui se sont levées jusqu'à présent. Vous n'êtes pas très joueurs dans cette église. Hein. On parie rien ici. Hein. Eh bien, je pense que vous n'êtes pas mouillés, parce qu'en fait, vous ne savez pas. Vous avez besoin que moi qui viens de chez ma mère, je vous dise le chemin, parce que moi, je connais le chemin. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Dieu. Pour connaître le chemin, pour savoir s'il y en a bien un de bon chemin, on a besoin que Dieu lui-même nous en dise le chemin. Il n'y a que lui qui sait le chemin au final, n'est-ce pas? Alors ce texte que nous abordons ce matin fait partie de l'évangile de Jean, qui était un juif du 1er siècle, qui a pu voir Jésus de ses propres yeux, toucher Jésus de ses propres mains, entendre Jésus de ses propres oreilles. Et dans son évangile, Jean nous apprend que Dieu existe bien et que Jésus est celui qui nous le révèle. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit au verset 6, « Je suis la vérité ». Il est la vérité absolue. Il est la vérité grand V incarnée. Il est celui qui révèle véritablement Dieu aux êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même, Dieu incarné. Et toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont vérité. Au premier chapitre de son évangile, Jean nous apprend que Jésus existait déjà au commencement de toutes choses, qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Et ceci est un peu un mystère, d'une certaine manière. Ça touche à la Trinité. Et c'est un mystère. On pourrait en parler par après, mais il faut juste savoir qu'il y a un seul Dieu en trois personnes qui révèle ce seul et unique Dieu. C'est ce que Jésus affirme au verset 7, n'est-ce pas? Il dit ceci à Thomas, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comme Jésus, le Fils de Dieu, est un avec le Père, quand on voit Jésus, on voit le Père, on voit Dieu. Ainsi, tout comme vous pouvez être sûr d'arriver chez ma mère, parce que moi qui viens de chez elle, je vous en dis le chemin, on peut être sûr que Jésus connaît le chemin vers Dieu parce qu'il vient d'auprès de Dieu. Il est Dieu lui-même. On peut être sûr de cela, non pas parce que les chrétiens sont plus spirituellement perspicaces que les autres, non, mais parce que Jésus qui est Dieu est venu du ciel et il en connaît bien le chemin. Alors, Jésus confirme ceci à la fin du verset 2 et au verset 3 en disant ceci à ses disciples et à tous ceux qui se confie en lui. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il peut dire qu'il va préparer une place à ceux qui se confient en lui, et qu'il va venir les rechercher. Et vous l'aurez certainement compris, ce dont Jésus parle ici, cette place qu'il prépare et pour laquelle il va venir rechercher les siens, c'est le paradis. L'endroit après lequel tout le monde aspire d'une manière ou d'une autre. Et ceci sans peut-être même le savoir. Un monde où il y a plus de tristesse, plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort. Car ce sera un monde où ceux qui habitent seront avec Dieu, en parfaite paix, harmonie, avec le Dieu de la vie, grand V. Et si on peut avoir l'assurance que cet endroit existe, c'est parce que Jésus en connaît le chemin, vu qu'il est Dieu. Il est venu du ciel, il est remonté après être mort et ressuscité. Il va revenir pour ceux qui se confient en lui et les y emmener. Du coup, si on se confie en lui ce matin, quelles que soient les circonstances de notre vie, et il se peut qu'elles soient bien difficiles, Verset 1. Notre cœur peut, notre cœur ne doit pas se troubler. Alors, qu'on se dise être croyant ou non, il se peut bien qu'on doute de cela, pour différentes raisons. Eh bien, c'est utile de savoir que si Jean a écrit son évangile, c'est pour qu'on ait l'assurance de ce que Jésus est bien Dieu, et que le suivre, c'est prendre le bon chemin de vie, même si ce n'est pas facile, même si c'est politiquement incorrect. En effet, voici ce qu'il a écrit à la fin de son évangile, chapitre 20, versets 30 et 31. Jean dit, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Si et quand nous doutons de ce que Jésus est le bon chemin à suivre, méditons l'évangile de Jean. Et si vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour lire, pour méditer cet évangile, pourquoi pas demander à quelqu'un ici de vous accompagner dans votre lecture. Je suis sûr que Nicolas, Pierre, Eric, Patrick, Olivier ou d'autres se feront une joie de vous accompagner dans votre lecture pour avoir l'assurance que Jésus connaît bien le chemin. Et rappelez-vous que Jean était un témoin oculaire, il a vu Jésus, il a entendu et touché Jésus au premier siècle. C'est historique, il savait que ce dont il témoignait allait paraître comme hors de ce monde, un peu fou. Et il reconnaît la nature miraculeuse, que ce sont des signes en Jean 20. Mais il en avait l'assurance, il en était convaincu, il a été prêt à souffrir même pour ce dont il témoignait. Il y a plein de raisons pour lesquelles je pense qu'on peut être sûr que le témoignage de Jean était vrai et pas un mensonge. Et je serais ravi d'en parler à la fin du culte lors du café, si vous voulez en discuter. Et comme dit les anciens, les responsables de cette église, le seraient aussi, je n'en ai aucun doute. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc on peut avoir l'assurance que la foi chrétienne est bien le bon chemin à suivre, que si on a décidé de suivre Jésus, on a fait le bon choix. Parce qu'étant Dieu, Jésus connaît le chemin. Tout comme moi je connais le chemin vers ma mère, mais vous avez besoin que moi je vous le dise, vous pouvez avoir l'assurance. Non seulement ça, et deuxième point, dernier point pour ce matin, non seulement Jésus connaît le chemin vers Dieu, mais Jésus est le chemin vers Dieu. Jésus est le chemin vers Dieu. Alors si nous prenons les autres systèmes de croyance, autres que le christianisme selon la Bible, les systèmes de croyance, comme j'ai dit, il y a l'athéisme, mais il y a aussi l'islam, il y a aussi le catholicisme romain, il y a d'autres des religions ou des spiritualités mystiques, le New Age et d'autres choses encore. À ma connaissance, essentiellement, elles disent à peu près toutes la même chose. Elles disent à l'être humain qu'il peut parvenir au sommet de la montagne de par des efforts qu'il pourrait fournir. Il peut parvenir à Dieu ou à l'état de bonheur suprême de par ses propres efforts, de par quelque chose qu'il pourrait faire. Par exemple, il doit peut-être se racheter du mal qu'il aurait pu faire, et il doit essayer d'être une meilleure personne, ou il doit peut-être poser des actes religieux, observer des rites, respecter des traditions, faire des prières, des séances de méditation, vivre des expériences spirituelles, et bien d'autres choses encore. C'est ainsi que l'humain peut arriver à obtenir la faveur divine ou à se détacher du mal, de la souffrance, pour connaître le bonheur suprême. Tout ça peut nous paraître attirant en entendant ces choses, ces messages, parce que ça nous dit qu'il y a quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, qu'il y a une voie, un chemin qu'on peut suivre de par nos forces. C'est attirant, c'est alléchant. Il y a une échelle qu'on peut grimper de par nos efforts pour arriver à Dieu. Mais en fait, la réalité est que naturellement, nous ne cherchons pas Dieu si on sonde nos cœurs. Nous suivons naturellement nos propres voies, des voies où nous décidons, où nous sommes aux commandes, où nous donnons le sens que nous voulons à nos vies. Nous empruntons tous naturellement des chemins de vie où nous sommes en quelque sorte au centre. Nous sommes les dieux. Naturellement, on n'aime pas laisser Dieu être le maître. On ne reconnaît pas sa souveraineté, le fait que lui est maître sur nos vies. Et nous rejetons le chemin de vie où il est au centre. C'est ce que la Bible appelle péché essentiellement. Comme l'affirme Romains 3, et on l'a vu avec Olivier, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Et Ésaïe 53, verset 6, nous dit que naturellement, chacun de nous, nous sommes comme des brebis égarées, chacun de nous suivant sa propre voie, ou en d'autres termes, son propre chemin. Ainsi, naturellement, nous sommes égarés. Nous sommes fautifs de notre égarement, car nous suivons nos propres voies, des voies, des chemins de vie où on ne cherche pas Dieu, où Dieu, on ne reconnaît pas sa maîtrise, le fait qu'il soit Dieu, qu'il soit le patron, qu'il soit le boss, ni sa volonté, ni ses intérêts. Des chemins où on n'est pas motivé par lui. Des chemins où nous cherchons notre volonté, nos intérêts. Nous sommes au centre. Nous faisons naturellement fausse route. On emprunte la mauvaise voie. On rejette notre bon et juste et tout-puissant Créateur. Et on a tort. On est coupable, fautif, vous et moi. Ça, c'est l'état naturel des choses en nous. Pour cela, on mérite d'être séparé de lui pour toujours. Parce que dans les faits, c'est ce que nous désirons tous, une vie sans lui, où nous sommes au centre, où nous sommes les patrons. On est égaré, on cherche si souvent la vie pleine même, on cherche la vie pleine et abondante ailleurs qu'en lui. Dans les bonnes choses que lui a créées, dans une famille, comme on l'a vu au début, dans peut-être le travail, dans des expériences fortes, dans du confort que lui nous donne pourtant, dans une bonne santé. Toutes les choses que lui a créées, qui lui permet. Non, c'est seulement dans le Dieu de la vie qu'on peut connaître le bonheur suprême. Lui qui a créé toutes ces bonnes choses, famille, travail, même confort. Et qui a créé ce beau monde époustouflant dans lequel on vit, et qui apportera le prochain monde, qui sera ô combien plus époustouflant. Ô combien plus époustouflant, parce que lui-même sera là, et ce sera le joyau le plus éclatant qu'on pourra vivre et expérimenter. On pourra y connaître la félicité, la joie incomparable. On le verra lui-même dans toute sa bonté, dans ce paradis. Dans toute sa bonté éclatante, car il remplira le paradis parfaitement. De nous-mêmes, je pense qu'on l'a bien compris, et moi je l'ai bien compris, il faut se le répéter, parce que souvent notre cœur veut nous séduire et nous dire « Ouais, je cherche surtout moi, mais un peu de Dieu. » Mais de nous-mêmes, on n'emprunte donc pas le bon chemin. Et on ne peut pas arriver à Dieu de par nos propres efforts. Parce que, comme on pourrait s'y attendre, Dieu étant Dieu, il est parfait. Parfaitement juste, parfaitement bon et tout puissant. Et il est du coup inatteignable. Si on tentait de monter une échelle pour arriver à lui, notre échelle s'arrêterait là et il serait comme en haut de la tour Eiffel. Ce serait se leurrer que de penser qu'on peut y arriver à lui. En montant une échelle de 3 mètres. Sommes-nous donc perdus? Dieu merci, non. Et c'est là où Jésus est une bonne nouvelle, et la meilleure des bonnes nouvelles pour nous. Il connaît non seulement le chemin vers Dieu, il est le chemin, le seul chemin vers Dieu. Là où tous les autres chemins, toutes les autres voies s'égarent et échouent lamentablement, il est notre si précieux chemin. Et nous sommes invités à l'emprunter, à le suivre avec confiance. Jésus dit, c'est moi, verset 6, qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On n'est pas sans espoir. Il y a bien une voie, il y a bien la voie qui mène à Dieu. C'est Jésus. Comme on l'a déjà vu, Jésus est la vérité. Il est Dieu lui-même, la révélation de Dieu. Celui qui nous permet de connaître Dieu véritablement. Dans le sens fort du terme, dans le sens intime, dans le sens relationnel. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il est la vérité. Et il peut ainsi nous réconcilier avec Dieu là où l'être humain en est incapable. On a aussi vu déjà en quelque sorte, Jésus est la vie, dans le sens que c'est lui qui permet à des êtres humains d'avoir la vie pleine et abondante avec Dieu. Il prépare cet endroit pour ceux qui le suivent. Et là est la vie. Alors qu'ils suivaient d'autres chemins, des chemins de vie qui menaient loin à Dieu, loin de Dieu, qui menaient à une vie de perdition, à la mort éternelle. Jésus est la vie parce que lui, en se confiant en lui, on est réconcilié avec le Dieu qui est l'auteur de la vie. Il nous permet donc de réellement vivre. Et il permet tout cela, je pense, en étant le chemin, le seul chemin qui mène à Dieu. Il dit, je suis le chemin. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Mais comment est-ce que Jésus nous mène à Dieu? Comment ça marche? Est-ce que je prends un chemin où Jésus, il écrit Jésus sur le chemin et je marche? Non. Alors, ce texte, il nous explique pas comment ça marche. Comment est-ce que Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu? Il y a un verset qui est très connu, que beaucoup connaissent. Peut-être le verset le plus connu de toute la Bible, Jean 3,16, qui nous explique un peu mieux cela. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Vous voyez, pour ne pas périr, pour ne pas être loin de Dieu éternellement, mais avoir la vie éternelle, Dieu a donné Jésus à la croix. Mais qu'a subi Jésus à la croix? On voit à la fin des évangiles, à la fin de Jean, il meurt. Pas seulement mourir physiquement, il prend toute la colère, tout le jugement de Dieu le Père, à la place de ceux qui se confient en lui. Tout le jugement de Dieu que nous méritons pour le rejet de Dieu, les péchés que nous avons commis, passé, présent, avenir. Si nous nous confions en lui, il a subi la peine, le jugement, la colère de Dieu à notre place, afin que si on se confie en lui, on est réconcilié avec le Père. On a la vie éternelle dès aujourd'hui. Et Jésus, quand il reviendra, on connaît cette vie pleine et abondante, sans plus de péché, éternelle. C'est en cela qu'il est le seul chemin. N'est-il pas merveilleux? Cet amour de Dieu n'est-il pas glorieux? Il suffit de se confier en lui. Non pas en nos efforts, si on se confie en nos efforts, l'échelle de 3 mètres. En lui seul, qui est l'ascenseur qui nous emmène au sommet. Quelle grâce, quel amour, quelle joie. Jésus est-il donc un chemin parmi d'autres ? Question de départ. Dans un sens, oui, parce qu'il y a d'autres chemins qu'on pourrait prendre. Mais il est le seul bon chemin à suivre, parce qu'il connaît le chemin, et il est le chemin. Il nous faut donc le suivre. Si vous ne le suivez pas encore, je vous en supplie, prenez bien le temps de considérer Jésus. Tous les chemins ne sont pas bons, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas justes. Il y a de très bonnes raisons de croire que Jésus est le chemin à suivre. Il est le bon chemin. Considérez bien Jésus, je vous en prie, les enjeux sont grands. Comme Olivier le disait tout à l'heure dans sa prière, il nous a interpellés, c'est aujourd'hui que Jésus toque. Si vous saisissez que Jésus est le seul chemin et qu'il est le bon chemin, suivez-le dès aujourd'hui. Et si vous hésitez, ne reportez pas plus tard votre investigation. Les enjeux sont grands. J'ai appris cette semaine de par un pasteur qui sert une église en Wallonie, qu'une dame de 50 ans qui était en train de découvrir la foi chrétienne est morte d'une rupture d'anévrisme, comme ça, alors qu'elle était en bonne santé. Ne retardez pas à demain ce qu'il faut commencer aujourd'hui. Quel chemin merveilleux est Jésus, quel grand amour Dieu nous montre en lui. Si vous le suivez déjà, Jésus, suivez-le encore. Confiez-vous en lui seul et sans penser que vous avez des marches à grimper sur une échelle. Non, c'est se confier en lui. Oui, on doit vivre une vie qui plaît à Dieu en reconnaissance à ce salut. Mais nous n'avons rien à contribuer, nous ne pouvons rien contribuer. Soyez dans la joie, dans la reconnaissance. Soyons dans la joie et la reconnaissance, chers frères et sœurs. Car Jésus connaît le chemin, il est le chemin, on peut en avoir l'assurance. Tout dépend de lui et pas de nous. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous prépare une place et il reviendra nous chercher. Et puis pour terminer, si nous-mêmes, on connaît ce chemin, si on suit ce chemin, si malgré toutes les circonstances de vie difficiles, on peut avoir la joie de ne pas se troubler, quelle serait la plus grande preuve d'amour qu'on pourrait montrer envers ceux qui ne suivent pas encore Jésus? Ce serait d'être des panneaux indicateurs, pas inertes, des témoins vivants qui invitent les gens à venir sur le chemin que nous suivons. Parce que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Le plus grand besoin de ceux qui nous entourent, que ce soit à l'université, sur les campus, dans nos lieux de travail, dans nos voisinages, dans nos familles, le besoin le plus grand, c'est d'avoir les péchés pardonnés en Jésus-Christ et d'être réconciliés avec le Père. Alors, invitons les gens à venir découvrir Jésus. Parlons, ayons les paroles remplies de grâce, assaisonnées de sel. Ce serait la plus grande preuve d'amour. Et c'est ça la raison d'être des GBU. J'en parlerai tout à l'heure. Les groupes bibliques universitaires, c'est de rassembler des étudiants chrétiens pour les soutenir, pour les aider, pour les équiper, pour témoigner auprès de tellement de milliers d'étudiants qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont sur des voies sur lesquelles ils s'égarent. Merci de prier pour les étudiants de votre assemblée, mais aussi les uns pour les autres, pour être des témoins fidèles qui pointent vers Jésus, le seul chemin vers Dieu. Prions pour terminer. Père Céleste, merci pour Jésus. Merci de ce qu'on peut avoir l'assurance qu'il est le chemin à suivre, que suivre Christ, se confier en lui, c'est faire le bon choix. Non pas parce qu'on est bon, parce qu'on est spirituellement perspicace, mais parce que Jésus connaît bel et bien le chemin. Il vient de près de toi. Et il est mort sur la croix. Il est Dieu fait homme, venu pour réconcilier avec toi. Il est le chemin. Loué sois-tu pour ton amour, pour cette assurance qu'on peut avoir grâce à toi.